Vous écoutez Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Comme une page qui se tourne dans la lutte contre l'épidémie de Covid, le quoi qu'il en coûte, c'est fini, annonce Bruno Le Maire à l'occasion de la rentrée du MEDEF devant des patrons convaincus. Le ministre de l'économie a insisté sur le redémarrage concret de l'économie. L'épidémie de Covid a eu raison de la rentrée des classes aux Antilles et dans une partie de la Guyane. Rentrée repoussée au 13 septembre, une décision attendue par les élus locaux, une décision devenue incontournable pour faire reculer le variant Delta. La fin des évacuations approche en Afghanistan. L'aéroport de Kaboul à l'heure du sauve-qui-peut. Nous avons pu joindre des personnels français sur place alors que la France organise ses dernières rotations aériennes vers Paris. Prudence, si vous vous inscrivez à un stage de yoga ou de méditation, certains sont une porte d'entrée vers des dérives sectaires. La Miviludes relève une augmentation du nombre de signalements. Des sanctions attendues après les graves incidents du match Nice-Marseille. Les deux clubs sont auditionnés ce soir devant la commission de discipline de la Ligue de foot professionnelle. À suivre après le journal, un point complet sur la bourse, ce sera Top à Wall Street avec Claire Lemaître. L'invité écho du jour, vous entendrez le patron de Keep Cool, les salles de sport et de fitness qui font peut-être partie, tiens, de vos bonnes résolutions de rentrée. Et puis nous découvrirons ensemble les gros titres de demain matin, les unes de la presse de ce jeudi.
Europe 1.
Le quoi qu'il en coûte, c'est donc terminé. Bruno Le Maire a fait passer le message noir sur blanc cet après-midi à la rencontre des entrepreneurs de France, la rentrée du MEDEF. Fin des aides généralisées et automatiques. On passe aux sur-mesures. Carole Ferry, vous étiez sur place pour Europe 1. Cette annonce du ministre de l'économie, Carole, a trouvé un écho très favorable parmi les patrons.
Oui, tous les indicateurs économiques sont au vert, la croissance est là, il n'y a donc plus de raison de maintenir la perfusion. Nous ne sommes pas devenus entrepreneurs pour vivre des aides de l'État, a déclaré le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, hormis, a-t-il précisé, pour les secteurs toujours très impactés.
Alors, il y a des secteurs qui sont encore en difficulté, il ne faut pas les oublier. L'hôtellerie, notamment quand elle dépend des touristes étrangers, l'événementiel, l'aérien, les voyagistes, les salles de sport, salles de spectacle. Et pour eux, il ne faudra pas arrêter brutalement les mesures de soutien.
Un message reçu 5 sur 5 par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Nous sommes passés aux sur-mesures. Nous continuerons à soutenir ceux qui en ont besoin. Je leur donne rendez-vous lundi prochain, 30 août. Le monde de la culture, les restaurateurs, les bars, les hôtels, le monde du tourisme, les voyagistes. Nous regarderons ceux qui ont perdu du chiffre d'affaires pendant cette crise sanitaire et pendant ces mois de passe sanitaire, et nous aiderons ceux qui ont perdu de l'argent à cause des réglementations sanitaires. Mais pour le reste, que l'économie soit libre, qu'elle crée des emplois et qu'elle crée de la richesse sans le soutien de l'État.
Un ministre de l'économie qui a été longuement applaudi par les chefs d'entreprise ici à Longchamp pour sa gestion de la crise depuis 18 mois.
Des aides non plus généralisées mais ciblées donc, en raison de signaux qui repassent au vert, insiste Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie pas démenti par les chiffres du chômage qui ont de nouveau reculé au mois de juillet. Une troisième baisse consécutive, 3 600 000 demandeurs d'emploi en catégorie A, c'est 1,6% de moins qu'au mois de juin. Face au Covid, il n'y avait plus le choix. La rentrée des classes est décalée au 13 septembre dans les Antilles françaises et dans une partie de la Guyane dans l'espoir d'endiguer la flambée du variant Delta. Dans les territoires d'outre-mer confinés, le taux d'incidence du virus est encore trop élevé. En Guyane, par exemple, il a bondi de 40% en une semaine. Aux Antilles, ce report de la rentrée était très attendu. Damien Mestre, les élus accueillent la nouvelle avec soulagement.
Oui, des élus comme Guy Losbar, président du conseil départemental de Guadeloupe, pour qui cette rentrée ne pouvait pas avoir lieu.
Il y a plus de 2000 cas par jour. Au niveau donc, des hôpitaux, donc, c'est la saturation totale. Mais même pour ouvrir les écoles, beaucoup d'agents ne sont pas disponibles dans les collèges, dans les lycées et même dans les écoles primaires, qui rend quasiment impossible la rentrée la semaine prochaine.
Soulagement également du côté des syndicats de l'enseignement. Eux aussi estimaient que les conditions n'étaient pas réunies pour une rentrée sereine, d'autant plus quand les profs sont directement touchés par cette crise sanitaire, selon Eddy Ségur, secrétaire général FSU Guadeloupe.
Il y a la crainte, il y a la peur. Beaucoup d'entre eux ont sûrement perdu un parent par rapport à ce qui est en train de se passer. Il faut aussi regarder dans quelle mesure on va prendre psychologiquement en charge et les élèves et les enseignants.
Et il faut dire que les chiffres sont toujours aussi alarmant aux Antilles. En Guadeloupe, par exemple, le taux d'incidence est de plus de 1800 cas pour 100 000 habitants. Beaucoup de contamination et très peu de vaccination. En Martinique, il y a moins d'un habitant sur quatre qui est totalement vacciné.
Et en France métropolitaine, la rentrée des classes, elle reste bien prévue pour le 2 septembre. Les syndicats de l'enseignement s'inquiètent d'un protocole sanitaire qu'ils jugent trop léger, en particulier pour les enfants les plus jeunes en primaire. Des mesures annoncées le week-end dernier par Jean-Michel Blanquer au nom d'une école ouverte à tous. Le ministre de l'Éducation a détaillé ces mesures retenues. Effectif complet en classe, port du masque à l'intérieur uniquement et pas de passe sanitaire exigé. Inquiétude des syndicats donc, mais des mesures jugées à ce stade suffisantes par le professeur Philippe Amouyel, épidémiologiste au CHU de Lille.
Ces mesures sont claires, suffisantes, il va falloir voir comment elles vont être appliquées. Je pense qu'il faut bien comprendre que le foyer maintenant de prolifération du virus va se retrouver chez les personnes les moins vaccinées, donc les plus jeunes, les moins de 12 ans qui n'ont pas encore accès au vaccin. Et donc toute la question va être, pourra-t-on appliquer correctement les mesures barrières? Et pas une seule, il faut en appliquer plusieurs pour réduire cette circulation du virus, protéger les enfants, mais protéger également les familles dans lesquelles ces enfants vont rentrer. Quelque part, je pense qu'on va finir d'une manière ou d'une autre à la vaccination obligatoire, non seulement pour les enseignants, les personnels scolaires, mais également le reste de la population. C'est une question de temps. D'ici la rentrée, on n'arrivera pas. Il faut prendre l'enjeu de la rentrée en main actuellement, et ce sont les mesures barrières. Le respect de ces mesures barrières, en particulier la discussion sur les capteurs de CO2 qui sont un enjeu essentiel, l'aération est un enjeu essentiel pour résoudre le problème de la rentrée et éviter d'avoir une saturation trois semaines plus tard dans les hôpitaux.
Le professeur Philippe Amouyel avec Romain Desarbres. Plus de 2200 patients malades du Covid sont encore hospitalisés en réanimation. En métropole, les contaminations se stabilisent mais sur un palier élevé avec une moyenne encore de 21 500 nouveaux cas par jour. Dernier compte à rebours en Afghanistan, avec le retrait des troupes américaines confirmé par Joe Biden le 31 août prochain. La dernière porte de sortie, l'aéroport de Kaboul, va bientôt se refermer. C'est donc l'heure de la dernière chance pour les Afghans qui cherchent à échapper aux talibans. Certains sont en danger de mort, Louis Dragnel. Vous avez pu établir des contacts avec du personnel français à l'aéroport de Kaboul. Ils vous ont décrit des scènes où des Afghans tentent le tout pour le tout.
Oui, les fonctionnaires que j'ai contactés me l'ont raconté. Pour beaucoup d'Afghans, c'est un peu l'opération sauve qui peut. Il faut bien imaginer le chaos sur place, l'extrême tension. Les talibans font tout pour éviter que des Afghans accèdent à l'aéroport. Et les candidats à l'exil se débrouillent comme ils peuvent pour convaincre ou soudoyer les talibans qui tiennent les checkpoints aux abords de l'immense aéroport de Kaboul. Certains chanceux réussissent à passer et ça peut paraître surréaliste. Une fois les checkpoints franchis, certains tentent le tout pour le tout en contactant directement par WhatsApp ou Telegram des personnels français à l'aéroport. Comme cet Afghan se trouvant à une porte de l'aéroport où les Français ne sont pas présents, il appelle alors un fonctionnaire français qui le guide à distance jusqu'à la porte où sont venus l'accueillir des militaires des forces spéciales. À la vue des uniformes français, à chaque fois, c'est le soulagement et l'émotion, les larmes et le sentiment d'être sauvé. Car dans moins de deux jours, les évacuations par les airs à destination de la France seront terminées.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. L'Afghan placé ce soir, placé en garde à vue après être sorti de la zone de surveillance qui lui avait été imposée à son arrivée en France, a été condamné ce soir à 10 mois de prison avec sursis après avoir été jugé en comparution immédiate. Demain matin, la ville de Strasbourg, elle accueille 150 réfugiés afghans. Un hôtel de la capitale alsacienne a été réquisitionné par l'État pour une durée d'un mois pour héberger ces réfugiés qui ont pu fuir le régime taliban. Reportage à Strasbourg, Arthur Elmbaché.
Il a fallu tout organiser en 48 heures. C'est l'association Foyer Notre-Dame, dirigée par Arnaud Fritsch, qui a été choisie pour coordonner l'opération.
Dire que c'est un défi humain et logistique est un euphémisme. On a été sollicité par les services de l'État il y a un peu moins de 48 heures pour monter ce dispositif d'accueil d'urgence. Et puis derrière, on a engagé la mobilisation de prestataires, sécurité, restauration. Les choses sont loin d'être calées, encore à l'heure où je vous parle, mais on va tout faire pour qu'on soit opérationnel. Mais je ne vous cacherai pas que je dors peu depuis deux jours.
Les 150 réfugiés afghans arrivent ici demain matin. Un hôtel entier a été réquisitionné par la préfecture. Nous nous devons de les accueillir dignement, dit la préfète Josiane Chevalier, qui ajoute que ça va se faire en toute sécurité.
Il y a un filtrage qui est fait à l'arrivée à Roissy par la direction générale de la sécurité intérieure, qui a évidemment des services localement. On suit, vous le savez bien, un certain nombre de personnes dites radicalisées. Et si, bien évidemment, il y a des cas qui sont signalés, nous les suivrions avec la plus grande attention localement.
L'opération doit durer 2 semaines, 3 maximum, le temps d'entamer les démarches de demande d'asile. Strasbourg, Arthur Elmbaché, Europe 1.
Mais pas de carte blanche dans l'accueil des réfugiés. Le gouvernement promet un triple filet de sécurité pour s'assurer que les Afghans évacués ne sont pas une menace pour notre sécurité. Triple passage au crible d'abord à Kaboul, puis à l'étape d'Abu Dhabi aux Émirats arabes sur la base aérienne française et puis enfin à l'arrivée à Paris. Le yoga et la méditation en tête des tendances sectaires. Dans le dernier rapport de la Miviludes, la mission contre les sectes s'inquiète d'une hausse du nombre de signalements dans les domaines de la santé et du bien-être. La semaine dernière en Touraine, une femme de 44 ans a été retrouvée morte pendant un stage de jeûne. L'enquête doit encore cerner les causes de la mort. Mais depuis le début de la crise du Covid, Justin Morin, les signalements à la Miviludes s'accumulent, en particulier donc dans les domaines du yoga et de la méditation.
Effectivement, il y a eu 159 alertes, rien que dans ces deux domaines l'année dernière, soit presque 2 fois plus qu'en 2019. L'augmentation des dérives est aussi perceptible en ce qui concerne le secteur de l'alimentation. Il y a eu 120 signalements l'an passé. Alors concernant le yoga, les experts recensent une dizaine de mouvements qui posent problème, mais ils soulignent surtout les interprétations et les pratiques néfastes que peuvent imposer individuellement certains professeurs, surtout quand cela concerne la santé. Certains maîtres de yoga mettent par exemple en avant l'immunité naturelle contre le Covid, dopée par le yoga. Et c'est ce qui pose problème, selon Marie Drillon, vice-présidente de l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu.
Certains vont se servir de ça pour asseoir une emprise sur les personnes qui les suivent en leur promettant qu'il n'y a pas besoin de masque, qu'il n'y a pas besoin de vaccination. Voilà, il faut avoir une certaine hygiène de vie, certaines plantes, certaines pratiques qui vont vous protéger avec le risque de passer à côté de vrais symptômes, de maladies qui doivent être soignées autrement.
Le travail de prévention, selon elle, est d'autant plus difficile que le yoga et la méditation ont une très bonne image dans les médias et ont même déjà été encouragés par les pouvoirs publics.
L'OGC Nice et l'Olympique de Marseille sur le grill de la Ligue de football professionnelle. Après les incidents de Nice-Marseille dimanche dernier, les deux clubs encourent des sanctions. Cyril Delamorinerie, vous avez suivi ce soir cette audition. Cyril, vous êtes devant le siège de la Ligue de football professionnelle. On attend donc les décisions, les éventuelles sanctions de la commission de discipline.
Oui, avec quelques-uns de mes confrères, il y a encore des caméras là, qui sont en train de scruter un éventuel arrivée du président de la commission de discipline. Et on attend toujours la fumée blanche. Il y a quelques personnes hein, de cette commission qui sont sorties, mais ils n'ont pas voulu s'exprimer. Les sages de la Ligue qui sont donc réunis hein, depuis plus de 4 heures maintenant. Les dernières décisions sont en train d'être prises. Une réunion donc qui s'est éternisée et c'est la preuve que le dossier est lourd et complexe. Il s'agit donc pour cette commission de prononcer les premières mesures à titre conservatoire à l'encontre de certains acteurs de cette triste soirée. Le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre River, qui est arrivé un peu avant 18h, est reparti 1h30 plus tard sans s'exprimer. Les dirigeants de l'OM ont été auditionnés par visioconférence et vu l'émoi provoqué par ce match, il est fort à parier qu'il y aura des sanctions fortes, peut-être pour certains joueurs qui pourraient être suspendus. Pour Nice, hein, qui risque plusieurs matchs à huis clos et même un retrait de points pour ne pas avoir réussi à tenir ses supporters, à contenir ses fans dans son stade. La commission de discipline a prévenu les médias sur place que personne ne parlerait ce soir et que communiqué serait envoyé dans cette fin de soirée. On devrait donc bientôt être fixé en sachant que les sanctions définitives seront prononcées une fois l'enquête de la Ligue close, soit pas avant 15 jours.
Cyril Delamorinerie du service des sports d'Europe 1. Merci Cyril. De son côté, Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais, se dit favorable à l'idée d'infliger des retraits de points au club dont les supporters provoqueraient des incidents dans les stades. Le PSG veut garder Kylian Mbappé. Le club a refusé l'offre du Real Madrid, une offre à 160 millions d'euros jugée trop faible. Mais le club madrilène pourrait bien revenir à la charge avant la fin du mercato prévu le 31 août à minuit. Kylian Mbappé veut partir, c'est entendu. Mais le PSG ne lui fera pas de cadeau, prévient Leonardo. Pour l'ancien international et ex-joueur du PSG, Laurent Fournier, ce n'est certainement pas le meilleur calcul.
Je pense que si le joueur veut partir, il faut le laisser partir. J'ai eu une expérience à Auxerre où vous voulez garder un joueur contre son gré, perturbé, il se blesse et vous l'avez perdu pour la saison. Après, j'adore Kylian parce que ce qu'il a fait depuis le début de saison est assez exceptionnel. C'est le seul des grosses stars qui a joué les trois matchs de championnat. Il a été très performant. Après, il ne faudrait pas qu'il soit démoralisé par rapport à cette situation. Et s'il a envie de partir au Real, et ben que le Paris Saint-Germain le laisse partir. Si on se rappelle tous les matchs qu'il a fait la saison dernière à Barcelone, à Madrid, où il a été exceptionnel, c'est l'avenir. Mais le retenir, retenir un joueur qui n'a pas envie de rester, c'est compliqué. Après, c'est son choix à lui. S'il a envie de rester, ben, tant mieux pour le Paris Saint-Germain, parce que sincèrement, dans le monde, il n'y a pas meilleur depuis pas mal de temps.
L'ex-joueur du PSG, Laurent Fournier. La première journée des Jeux paralympiques de Tokyo apporte deux médailles à la France. En natation d'abord, Hugo Didier, médaille d'argent sur le 400 mètres nage libre. Et puis la cycliste Marie Patouillet, médaille de bronze sur piste en poursuite individuelle. Le temps pour ce jeudi, Marlène Duret, au programme un changement de décor demain dans le Nord.
Et oui Alexandre, des nuages envahiront le tiers nord du pays demain matin. Ce sera généralement du temps gris des Côtes d'Armor au Bas-Rhin, avec quelques pluies faibles dans le nord-est. Des éclaircies réussiront à percer quand même l'après-midi, mais les nuages auront tendance à gagner vers la Franche-Comté et le sud de la Bourgogne. Le ciel restera malheureusement bien couvert du Jura au Mont-Saint-Michel. Partout ailleurs, c'est du grand beau temps avec toujours un petit risque d'averse sur l'est des Pyrénées sur le relief. Et puis on notera les vents dans le sud-est, Mistral et Tramontane soufflant à 50 km à l'heure. Et puis le vent d'ouest aussi, 70 km à l'heure hein, pour le vent d'ouest en direction des côtes varoises et des Cap Corse. Les températures baisseront là où les nuages arrivent, mais pas ailleurs. Les maximales seront donc comprises entre 19 degrés à Cherbourg et 32 à Nîmes, avec généralement 20 à 26 sur la moitié nord et 26 à 31 degrés sur la moitié sud.
Merci Marlène Duret. On vous retrouve à minuit pour un dernier point météo. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, c'est Top à Wall Street avec Claire Lemaître et puis l'invité d'Écho, Écho d'Emmanuel Duteil. On se penchera ensuite sur les premières unes de la presse de demain matin. A tout de suite.
Europe Nuit, informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1, Claire Lemaître de Boursier.com est avec nous. Bonsoir Claire.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street poursuit doucement son ascension ce soir et s'offre au passage de nouveaux records historiques.
Oui, nouveau record pour le S&P 500, nouveau record aussi pour le Nasdaq. Il est à 15 041 points grâce à une hausse de 0,15%. Et puis le Dow Jones grappille encore 0,11% ce soir. Alors les marchés montent, mais dans une ambiance quand même prudente avant la réunion des banquiers centraux de la planète en fin de semaine. Et le discours très attendu du patron de la Fed, Jérôme Powell, ce sera vendredi. En attendant ce discours, les rendements des taux obligataires remontent, ça profite aux banques. JP Morgan bondit de 2%, Goldman Sachs plus 1,2%, Bank of America plus 1,6%. Les poids lourds de la tech ont eu plus de mal à se mettre d'accord. Apple perd 0,8%, Amazon moins 0,2%, mais Facebook avance de 0,8%.
Le secteur des loisirs et des voyages s'est encore distingué ce soir à la Bourse de New York.
Ouais, c'est un secteur qui monte depuis le début de la semaine avec les espoirs d'une accélération de la vaccination aux États-Unis. L'agence de voyage en ligne TripAdvisor gagne encore 3%, plus 1,7% pour American Airlines, plus 1,9% pour Delta Airlines, la compagnie aérienne qui a décidé d'augmenter la mutuelle de ses salariés non vaccinés. 170 euros en plus par mois pour ceux qui ne seront pas vaccinés le 1er novembre. Et il faut savoir qu'une hospitalisation pour Covid coûte en moyenne 50 000 dollars par patient à la compagnie tout de même.
Oui.
Un mot enfin du pétrole. Le baril de WTI gagne encore 1,3%. Ce soir, il est à 68,44 $.
Oui, Claire, enfin, pas beaucoup de mouvements ce soir à Paris. Le CAC 40 a tout de même terminé en légère hausse grâce aux valeurs bancaires.
Oui, encore une séance calme et un CAC 40 qui gagne 0,18%, 6 676 points. Les valeurs bancaires dominent le palmarès, là aussi avec la remontée des taux. Société Générale s'adjuge 2,4%, BNP Paribas plus 2%. Ça monte aussi pour Airbus, plus 2,2%, quatrième séance dans le vert pour l'avionneur européen. Et puis la société Carmat a annoncé l'implantation de son cœur artificiel dans un deuxième centre médical aux États-Unis. L'action en profite, elle est en hausse de 4,7% ce soir. Ailleurs en Europe, les marchés gagnent quelques points, à l'exception de Francfort qui perd 0,3%, Londres et Madrid plus 0,3%, Milan plus 0,1%, et puis à Paris, le CAC 40 avance de 0,2%, 6 676 points.
Merci Claire Lemaître de Boursier.com. L'invité éco sur Europe 1, David Amiouni, le directeur général des salles de sport et de fitness Skip Cool, était l'invité à la mi-journée de La France Bouge. Il répond aux questions d'Emmanuel Duteil et d'Elisabeth Assayag.
Bonjour David Amiouni.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le coprésident des salles de sport Keep Cool. 270 salles partout en France, 1500 salariés. Des salles de sport qui existent depuis 20 ans. Vous avez repris, hein, David, la société depuis quelques années. Des abonnements accessibles, hein, puisque ce sont des abonnements dans vos salles de sport à 29 euros. Alors David Amiouni, comment s'annonce cette rentrée après une année où vous avez dû fermer la totalité de vos salles pendant près d'un an tout de même?
Bah écoutez... On est très heureux de pouvoir reprendre et d'accompagner les Français pour se remettre au sport. C'est vrai qu'on a vécu une année un peu compliquée entre la fermeture et l'instauration du pass sanitaire. Mais on sent un vrai engouement des Français pour le sport, une vraie prise de conscience qu'être en bonne forme physique, c'est quand même une très bonne garantie pour se prémunir des futures pandémies, s'il y en a d'autres, en tout cas de celle qui est là aujourd'hui. Et nous, on est très très positif, on a préparé plein de choses pour cette rentrée.
Alors très positif, c'est important parce que septembre est traditionnellement le mois où il y a le plus d'inscriptions. Janvier est un autre pic, hein, parce qu'à chaque fois on arrive avec de bonnes intentions. Qu'est-ce que vous pronostiquez pour cette rentrée?
Écoutez, c'est difficile de faire des pronostics, mais comme je vous disais, on ressent un vrai besoin et une vraie envie des Français de se remettre au sport. Il y a un impact... qu'on mesure à environ 10-15% du pass sanitaire, qui correspond globalement aux réfractaires, aux vaccins, les vrais réfractaires. Malgré tout, je vous dis, la tendance est plutôt bonne.
La tendance est plutôt bonne. Malgré tout, ça veut dire quoi? Parce que c'est-à-dire que par rapport à une année normale, si on regarde la rentrée de 2019, de septembre 2019, on a eu le sourire, c'était bien, il n'y avait encore pas du tout de Covid dans l'air. Vous allez être quoi? En baisse de 20% d'après vous au niveau des inscriptions, c'est ça que vous nous dites, hein?
La tendance du marché serait celle-là, mais... pour Keep Cool, j'espère qu'on sera au-dessus de 2019.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour justement être au-dessus de 2019? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Je crois que vous avez des tas de surprises.
On a des tas de surprises. Déjà, il y a une vraie prise de conscience pendant ce Covid que Keep Cool a une vraie mission. C'est une vraie entreprise à mission et que notre mission, c'est de mettre du bien-être dans la vie de tous les Français.
Donc, le bien-être par le sport.
Alors, on s'est questionné comment mettre du bien-être. Qu'est-ce que c'est que le bien-être? La première chose qu'on s'est dit, c'est accompagner les gens uniquement dans l'activité physique est insuffisant. Il faut qu'on puisse les accompagner sur la dimension nutritionnelle et puis sur ce qu'on appelle l'état d'esprit, comment je me sens mieux dans ma tête. Donc on a décidé d'élargir un petit peu le champ de Keep Cool et dans nos salles et notre écosystème digital, d'accompagner les gens sur d'autres prismes que simplement l'activité physique. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est qu'on s'est dit comment est-ce qu'on peut honorer notre promesse de mettre du bien-être dans la vie de tous les Français. Eh bien, on s'est dit, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de rendre l'accès aux salles gratuites.
Gratuit? C'est là, en sortant de l'émission avec Elisabeth, on se pointe devant un Keep Cool. On a regardé, il y en a un dans le 16e arrondissement, là, pas très très
absolument,
loin des
Victor
studios d'Europe 1.
On
va arriver
repérer,
et ça va être
déjà.
Gratuit.
Ce sera gratuit. Et je vais vous expliquer comment ça
là,
fonctionne.
Là, dès aujourd'hui. Mais je rigole pas. Si là, ça on commence... part, attention, parce qu'on est capable de les tester. Hein, donc,
Je vous accompagne pour qu'on aille tester. À partir d'aujourd'hui, c'est gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez venir une fois par mois dans nos salles. On va faire un petit bilan avec vous. Vous donner accès à tout notre écosystème de cours à la maison. Et ça, c'est 100% gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire pour aller un petit cran plus loin? Ça veut dire que si vous avez un petit bilan, que vous pouvez venir une fois par mois dans la salle et que vous avez autour de vous une bibliothèque média qui vous permet de faire vos cours.
Pour découvrir les cours qu'on peut faire à la maison par écran.
Exactement. Donc vous pouvez venir une fois par mois dans nos salles. On vous fait un petit bilan. On vous explique ce qu'il faut que vous fassiez pendant le mois qui arrive. On vous donne gratuitement toute notre bibliothèque digitale. Et vous pouvez vous remettre en forme tout seul.
Le but, c'est quand même, quand on vient vous voir une fois par mois, c'est que vous arriviez à me vendre un abonnement à la fin. C'est une manière extraordinaire pour vous, cette gratuité, de faire rentrer des gens qui, soit à cause du prix, soit comme moi, qui se disent « Oh, la salle de sport, de toute façon, j'irai trois fois et j'abandonnerai », qu'on pousse la porte, qu'on ne ferait pas naturellement. Est-ce que c'est ça l'idée?
Mais on est dans un monde où il faudrait concilier le social et l'économique. Évidemment que l'idée, c'est qu'économiquement, on puisse faire venir plus de monde et qu'on arrive à proposer à notre produit au plus de monde possible. Mais ce n'est pas incompatible avec le fait d'offrir des choses à des gens qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de payer 29,90 euros par mois. Il y a des gens en France qui n'ont pas ces moyens-là. Et bien nous, on leur offre cette possibilité, malgré tout, de se mettre en activité physique.
Justement, David Amiouni, c'est qui votre clientèle? Qui fréquente les salles de sport Keep Cool aujourd'hui? Je rappelle que vous avez 270 salles partout en France.
Eh bien, ce n'est pas une réponse démagogique. On a vraiment des gens qui vont de 17 à 117 ans. Ce n'est pas démagogique comme
117
réponse.
117 ans.
Parce que j'ai dit 17,
Ah oui, d'accord,
mais on a des gens vraiment âgés. Si vous voulez, on est vraiment la marque du peuple, entre guillemets. On s'adresse à l'intégralité des Français. On n'est pas une salle où on va travailler la surperformance physique. Il y en existe d'autres qui le font très bien. On est vraiment la salle du quidam, la salle de tout le monde.
Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que cette crise nous a permis de nous poser pour réfléchir à notre sens, à notre mission.
Absolument.
Est-ce que, d'une certaine manière, alors que cette crise a été cataclysmique, hein, vous êtes resté, on le disait, fermé pendant un an, les salles de sport, on vous a beaucoup entendu critiquer en disant « mais comment c'est possible qu'on reste fermé alors qu'on peut appliquer un pass sanitaire facilement chez nous ?» Est-ce que vous avez l'impression de sortir meilleur, d'une certaine manière, parce que vous n'auriez peut-être pas eu le temps de réflexion quand on a la tête dans le guidon, quand tout va bien, on ne se serait peut-être pas dit « tiens, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ?»
Mais on sort profondément meilleur. Sincèrement, et je le pense sincèrement, je pense que dans ces périodes de crise, soit vous mourrez, soit vous vous transformez dans une activité comme nous qui a été globalement fermée pendant quasiment une année entière. Donc c'est une année entière d'interruption d'activité, c'est des centaines et des centaines de salariés au chômage. Mais ça permet de se questionner. Est-ce que je veux survivre? Et comment est-ce que je vais survivre?
Cette crise, hein, elle a connu donc l'essor de ces cours à distance. Vous aussi, chez Keep Cool, vous en proposez?
On en propose depuis déjà 10 ans.
Mais ouais. Il y a eu une accélération. Il y a 10 ans, vous n'en parliez pas.
On n'en parlait pas, mais on a été les premiers à instaurer les cours vidéo et la mise à disposition de ces cours vidéo. Mais moi, je reste profondément convaincu que vous pouvez faire des choses à distance, mais sans contact physique, sans relation avec un coach, sans relation sociale. Vous perdez l'intérêt pour le
Alors,
sport.
Il apporte quoi le coach en salle chez vous?
Ah bah, vous avez un vrai bilan. Déjà, la première chose qu'il va vous demander, c'est pourquoi vous venez. Certains viennent pour perdre du poids, d'autres pour prendre de la masse musculaire, mais il y en a beaucoup qui viennent parce qu'ils se sentent juste peut-être un peu seuls, qu'ils ont envie d'être accompagnés, qu'ils ont envie de vivre une expérience physique, au sens activité physique, avec quelqu'un d'autre. Et les cours à distance sont une modalité. Mais de notre point de vue à nous, chez Keep Cool, c'est pour ça qu'on a des salles et qu'on continue à investir dans nos salles, c'est insuffisant.
Ce qui est intéressant avec ce que vous dites, c'est que finalement, les cours à distance, c'est utile, mais ce n'est qu'un complément.
Absolument.
C'est indépendant, un des blocs d'une expérience complète. C'est vrai qu'à un moment, on s'était dit, bon, mais c'est pareil pour les réunions, pour ce genre de choses. On s'était dit, on pourrait tout faire en Zoom. On se rend compte que l'humain, c'est important. C'est aussi votre conclusion aujourd'hui?
L'humain est au cœur de ce qu'on fait et on a aujourd'hui dans le réseau plus de 800 coachs diplômés d'État. Et c'est le cœur de notre activité.
Et ça représente quoi en termes de chiffre d'affaires, vos cours à distance?
Les cours à distance ne sont pas monnayés aujourd'hui. Ils sont mis à disposition dans les abonnements. On considère que le digital aujourd'hui ne peut pas être quelque chose qui est vendu. Le digital est nativement gratuit. C'est l'exemple de Deezer, de Spotify, de Google, tout ce que vous voulez. L'accès au réseau physique, lui, peut être monnayé. Mais le digital ne peut pas être monnayé.
Donc il faut payer l'abonnement pour y avoir accès.
Non, parce que vous avez un abonnement gratuit à partir d'aujourd'hui. Vous n'avez...
Oui, enfin bon, si on revient une fois par mois, on le reprécise quand même.
Si vous venez physiquement une fois par mois, mais le digital sera quand même gratuit, quoi qu'il arrive.
Voilà, David Amioni, directeur général des salles de sport et de fitness Keep Cool, répondait aux questions d'Elisabeth Assayag et d'Emmanuel Duteil. On vous retrouve tous les deux pour La France bouge de 13h à 14h sur Europe 1, émission consacrée demain au retour au travail. Il sera notamment question de télétravail et d'augmentation. Votre invité, Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Et nous sommes de retour en direct avec Cyril de la Mourinerie, en direct du siège de la Ligue de football professionnel. Cyril, la commission de discipline vient de rendre ses décisions concernant le match Nice-Marseille.
Oui, on vient d'avoir le communiqué de presse à l'instant de la Ligue de football professionnel. La commission de discipline de la LFP décide de prononcer deux mesures à titre conservatoire. D'abord, match à huis clos total pour le prochain match entre Nice et les Girondins de Bordeaux. Match qui est prévu le samedi 28 août à 17h, en sachant que le préfet a décidé de fermer, vous en souvenez sans doute, une tribune. Mais là, ce sera vraiment un match sans spectateurs. Décision donc prise par la commission de discipline, alors que l'un de ses membres éminents vient de partir à l'instant. Je vois les caméras de télévision et il n'a pas voulu s'exprimer. Deuxième mesure prise, suspension de bancs de touche, de vestiaire et d'arbitre de toute fonction officielle de Pablo Fernandez. C'est le préparateur physique de l'Olympique de Marseille. On avait vu des images où il y avait ce préparateur physique qui avait donné un coup de poing à un supporter de l'OGC Nice. C'est sans doute cette personne donc qui a été suspendue ce soir de toute fonction officielle. À l'issue de l'instruction qui sera rendue le jeudi 8 septembre prochain, eh bien la commission de discipline prendra des décisions définitives. Donc voilà, c'est ce qu'on s'attendait à ça, hein, des mesures à titre conservatoire et des décisions définitives une fois que l'enquête sera bouclée. Donc décision à attendre le jeudi 8 septembre prochain. Dernière information, le résultat du match n'est pas comptabilisé dans le classement de Ligue 1. Ils attendent donc de statuer d'ici le 8 septembre pour voir si le match sera par exemple rejoué sur terrain neutre.
Merci Cyril de la Morinerie en direct du siège de la Ligue de football professionnel pour l'annonce donc de ces sanctions qui viennent d'être décidées et communiquées après les graves incidents survenus lors du match Nice-Marseille dimanche dernier. Allez, un coup d'œil rapide à la une, aux une de la presse de demain matin. Le Figaro titre sur la rentrée scolaire, Jean-Michel Blanquer faisant le pari d'une rentrée scolaire normale pour la métropole en tout cas. Vous savez, on vous en parle ce soir sur Europe 1. La rentrée scolaire, elle a été reportée dans les Antilles et dans une partie de la Guyane, reportée au 13 septembre. Les Échos se réjouissent de cette accélération sur la vaccination et sur le pass sanitaire. Après un démarrage timide, la France se hisse parmi les meilleurs élèves de la vaccination. Nouvelle étape, tiens, lundi prochain dans la mise en place du pass sanitaire, il s'imposera aux salariés en contact avec le public. La Croix vous détaille demain comment les patrons voient la reprise à l'occasion de la rencontre des entrepreneurs de France, cette rentrée du MEDEF au cours de laquelle Bruno Le Maire a annoncé la fin du quoi qu'il en coûte, les signaux de la reprise sont au vert. Afghanistan, le piège à la une de Libération avec cette photo de cette clôture, de cette porte de sortie à Kaboul qui se referme sur les Afghans candidats au départ. À quelques jours du retrait américain, les rapatriements d'Occidentaux et d'Afghans se multiplient dans la panique. Dramatique compte à rebours pour ces Afghans qui veulent fuir, titre Ouest France. Plus de 70 000 évacuations. Mais à quelques heures de la fermeture de l'aéroport de Kaboul, certains Afghans réalisent qu'ils resteront bloqués dans le pays.